Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine.
Bonjour Juliana.
Ça va bien ?
Mais ça va très très bien, je suis ravie d'être là. C'est la rentrée, c'est notre rentrée, je vois que t'as un beau sac, moi aussi. Voilà, on a rangé notre trousse, on est prête.
On est prête, c'est notre rentrée, oui en effet, ici avec l'émission Le Nombril de Vénus, en compagnie de Sandrine. Nous qui sommes dans cette émission pour vous parler des coups de cœur, des livres qu'on adore. J'ai choisi un livre qui est en lice pour le Goncourt. C'est Éric Reinhart avec Sarah, Suzanne et l'écrivain, c'est un roman qui est paru aux éditions Gallimard en cette rentrée littéraire. Absolument sublime. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
Très bien, j'ai hâte d'entendre ta chronique. Alors pour ma part, j'ai choisi un ouvrage que j'aime beaucoup, dont je parle beaucoup. Pendant cet été, ça a été l'occasion de grandes discussions. C'est de Sandrine Collette, paru chez Jean-Claude Lattès. Évidemment, vous avez tous compris qu'il s'agit de « On était des loups », paru en 2022.
On va faire un saut tout de suite en 2022 avec toi Sandrine. Juste une petite virgule musicale, c'est à toi.
Avant de commencer, j'ai quand même envie de dire bravo pour ce nouveau générique.
Il est
absolument magnifique.
Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien.
Bravo.
J'ai entendu cette musique et elle a fait tellement penser aux vacances qu'on a laissées derrière nous, tu vois, avec, je sais pas moi, cette ambiance fin de journée, ensoleillée. Alors, on était des loups.
Oui, on était des loups. Sandrine Collette, voilà. J'avoue que j'avais quasiment pas lu de roman de Sandrine Collette. Heureusement, c'est réparé. Je suis subjuguée par son écriture. Alors d'abord, j'ai juste envie de vous dire un petit peu qui est-elle. Elle est née en 1970. De la manière la plus concise, je dirais que c'est une femme passionnée de mots, passionnée de montagne, passionnée de profondeur. Profondeur de quoi ? Vous savez, de forêt. D'humus, de ces parties qu'il y a justement entre le clair-obscur et le mystère de tous ces lieux qu'on peut connaître nous aussi. Donc voilà, celui-ci est paru en 2022. Qu'est-ce qu'elle a fait avant ? Elle a publié chez De Noël, elle a publié donc chez Jean-Claude Lattès à partir de 2020. Et en donnant les titres, ça va vous permettre un petit peu d'aller dans son univers. Je commence, 2013, Des nœuds d'acier. Ensuite, Un vent de cendre, 2014. 2015, Six fourmis blanches. Ensuite, 2016, Il reste la poussière. Enfin, 2017, Les larmes noires sur la terre. 2018, Juste après la vague. Animal, en 2019. 2020, Et toujours les forêts. Tiens, ça me fait penser à un titre d'Éric Renard.
Oui, bien sûr, hein, Amour et les forêts.
Tout à fait.
Qui était un film là récent au cinéma, bien sûr.
Et 2021, ces orages-là, et enfin, on était des loups. Alors, avant de vous lire un extrait, parce que je trouve que là, pour le coup, j'ai l'impression que tout ce que je vais dire va être d'une insuffisance. Et je m'en excuse, je ne vais pas paraphraser, je vais simplement parler des critiques que j'ai lues, d'elle-même, de ce qu'elle a dit en vidéo. J'ai évidemment, comme à chaque fois, on pris le temps de travailler sur le contenu de la chronique. Sandrine Collette est quelqu'un qui est... comme chacune d'entre nous, mais en tout cas pour sa part, elle le fait avec beaucoup de talent, a beaucoup d'obsession. La forêt, encore une fois, les personnages, j'ai envie de dire, du quotidien, dont elle fait un portrait absolument fascinant. Ce sont à la fois des anti-héros et à la fois des héros tout court. Des personnages, peut-être qu'on en a rencontré dans la vie. Là, il y a trois personnes. C'est un triptyque avec une vision artistique, en tout cas d'un point de vue littéraire. Un trio, une famille. Liam, le père. Le petit garçon de 5 ans, Haru. Et puis la femme avec laquelle il vit. Donc, on partage leur histoire, on partage ce récit. Vous savez, Sandrine Collette, elle est absolument passionnée par quoi ? Par les contes. Elle a été nourrie de cette tradition orale, écrite, d'une collection qui existait, que j'avais dans les bibliothèques scolaires, qui était Contes et mythologies 2. Alors j'en ai lu plein, j'ai découvert plein de pays, plein d'endroits, plein de personnages. Je me souviens des Aztèques. Pardon si je le prononce mal, les Incas. Évidemment, c'est là où j'ai découvert l'Odyssée, Homère. J'ai été passionnée par ces récits. Et je crois que ce livre-là, c'est une traversée, c'est l'Odyssée de cet homme. Parce que, En filigrane, c'est la nature. Mais avant tout, c'est l'histoire de cet homme. Je tiens à le préciser, on est un peu dans ce roman où on nous propose un voyage, un départ. On quitte quelque chose, on arrive dans une forêt. Mais attention, on n'est pas dans une forêt très accueillante. Je sais que c'est un sujet dont on a souvent parlé, parce que moi, ça me tient à cœur. Et on est aussi beaucoup appelé par quelquefois le retour aux sources. Mais là, on n'est pas du tout dans un retour aux sources. On est dans un lieu, et c'est ça que j'adore. Sandrine Collette est vraiment une génie d'écriture, elle est absolument exceptionnelle. Chacun, chacune, chaque lecteur, chaque lectrice va transposer ce récit dans le lieu qui lui parle. Alors juste d'un point de vue anecdotique, ça m'a fait penser quand j'étais au Québec, parce que j'ai eu la chance d'y aller assez longtemps quand j'étais un peu jeune. Et voilà, ça m'a rappelé les grands espaces. Au Québec, il y a quand même, il faut savoir, un lac pour 6 habitants. Donc c'est assez très beau, voilà, la grande forêt. Et puis il y a aussi cette forêt obscure en fin de journée ou de nuit. Dans les contes, on en parle beaucoup. Donc cette histoire, c'est vous avez le méchant ou la méchante, je ne vais pas le préciser. Vous avez la forêt et puis tout ce qui s'y passe... De terrible, absolument. Ce livre-là est quand même à la limite entre roman noir, le conte, mais on n'est pas du tout dans quelque chose... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
C'est pas spécialement anxiogène.
C'est pas spécialement anxiogène, c'est pas spécialement non-anxiogène.
Alors, fais-nous la lecture.
Je vais vous faire la lecture, et juste pour dire un petit peu quand même qu'elle a vraiment des obsessions. Voilà, c'est ça. La forêt, le conte, et ce retour... En tout cas, ou peut-être ce départ de la forêt pour ce que ça dit et cette volonté de partir. Il y a vraiment quelque chose d'absolument fascinant qui nous permet à chacun, à chacune de nous transposer dans un lieu. Donc je parlais du Québec, ça va sans doute t'amener ailleurs et chacun, chacune va aller dans cet endroit qui lui fait peur. Et c'est une manière de transformer la peur. Ce livre est une catharsis, c'est absolument génial et pour ça, Sandrine Collette, je vous remercierai jamais infiniment. J'ai eu des discussions passionnantes avec des gens cet été qui me parlaient en quoi ça leur a permis de vaincre certaines peurs. Alors le titre, On était des loups, évidemment, c'est très intéressant aussi, bien sûr, On était des loups. Pourquoi l'utilisation de cette conjugation dans ce temps-là ? Alors je vais avec grand plaisir, Juliana, commencer. Je prends la voix du narrateur, évidemment, c'est Liam, L-I-A-M, ce père, parce que c'est aussi l'histoire d'un père avec sa relation avec son fils. Mais à travers cette histoire, il nous parle de lui, et il nous parle de lui, et je le précise, dans la violence qu'il a connue enfant, et qui fait que peut-être il a autant de difficultés lui-même à bien aimer son enfant. Il l'aime, mais c'est pas ce qu'on pourrait appeler une relation la plus simple possible. Alors bravo Sandrine Collette pour votre écriture absolument magnifique. Je ne suis pas beaucoup allée à l'école. J'ai arrêté dès que j'ai pu. Et déjà quand j'étais môme et que j'étais obligée, je m'y mettais pas souvent les pieds. Je ne suis pas éduquée. C'est la faute aux parents qui avaient besoin de nous à la ferme. De toute façon, ce qu'on nous apprenait en cours, c'était des conneries. J'ai grandi à la trique et à l'alcool. Mais je ne veux pas en parler. C'est du passé. Et ce passé-là, aussi, dès que j'ai pu, je l'ai quitté. J'ai pris la direction des bois. Ah, ce n'était pas encore la montagne. J'ai été apprenti et puis bûcheron quelques années. Ça fait une sorte de transition et aussi une sacrée expérience. Pour le coup, j'en ai encaissé des choses de la vie à cette époque. Et encore une fois, je préfère ne pas parler de ça. Ma vie, elle a commencé ici, quand j'ai acheté mon terrain avec mes économies de la Syrie, j'avais 20 ans. Ma vie, c'est la chasse et Ava et Haru, quoi qu'on pense, et c'est tout. Des fois, j'ai un sentiment dérangeant quand je reviens d'une traque et que je sors de la forêt pour arriver chez nous par le champ. Ce champ, je l'ai défriché avec Henri au tout début pour avoir de la vue et de la place pour les bêtes. Ça fait un très grand espace vert avec des arbres partout devant la maison. C'est beau et reposant. Donc, je descends la montagne et je suis à pied. Je fais toujours ça pour soulager le dos de mon cheval avant de rentrer. Haru me guette. Je ne sais pas comment il fait, s'il me guette toute la journée, tous les jours que je pars enfin. Il me repère toujours en premier et là il crie. Ce n'est pas un cri comme un cri, c'est de la joie. Ça non plus, je n'ai pas les mots pour le dire, je le perçois dans ma poitrine et c'est gigantesque. Et le petit court vers moi, il ne court pas vite, il est petit. C'est là que c'est bizarre, chaque fois, ça me fait quelque chose dans le ventre. et c'est de l'émotion que je n'arrive pas à retenir, de l'émotion de voir qu'il m'attend et qu'il n'attend que moi, et sur son visage le bonheur qu'il y a, je ne peux pas l'expliquer, c'est immense. Mais c'est aussi une sorte de pitié effrayante quand je le regarde cavaler pour me rejoindre. Il est tellement petit, tellement faible. Ça me fait peur, ça me fait de la tristesse, ça me broyer. Je me dis qu'il sera tout le temps petit et fragile. Et pourtant, je le sais que ce n'est pas vrai, seulement je voudrais le protéger pour toujours. Alors, il y a ces instants terribles. Et puis Haru est là, et il se jette contre mes jambes, et d'un coup, ça va mieux. Comme si maintenant qu'il était avec moi, il ne pouvait rien lui arriver. Et je sais aussi que tout ça c'est faux, parce que c'est sa mère qui s'occupe de lui, et c'est sa mère qui le protège. Moi, ce n'est qu'une sensation, mais elle, c'est en vrai chaque jour que Dieu fait. Il y a quelque chose d'injuste dans la course d'Haru vers moi, et pourtant je le prends et je le garde. Et Ava sourit, en bas du champ, je jure que je devine son sourire. Après, je finis mon chemin avec le petit Tom sur mes épaules. Ce sont les moments où je suis vraiment avec lui. Ça ne cherche pas bien loin, je m'en rends compte, et j'embrasse Ava. Et on est là, tous les trois, dans la montagne. Je crois que je suis heureux.
C'est magnifique. Merci infiniment, Sandrine. Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sandrine pour vous parler de nos coups de cœur. Eh bien, moi, personnellement, de cette rentrée littéraire avec le livre Sarah Suzanne et l'écrivain de l'auteur Eric Reinhardt. C'est un roman paru aux éditions Gallimard. Moi, Eric Reinhardt, c'est déjà une grande histoire parce que j'adore ses livres. Je pourrais vous citer plusieurs comme Cendrillon, La Chambre des Époux, L'Amour et les Forêts, qui sont les plus connus, on va dire ça comme ça. J'adore Reinhardt parce que je trouve que son écriture a beaucoup d'élégance, elle est sophistiquée. C'est quelqu'un qui est érudit et qui a son propre univers. Donc, il parle souvent de la relation entre les hommes, les femmes, souvent de la maladie aussi qui s'en mêle. L'art est très présent dans ses livres. C'est fascinant. Et la violence, l'abus de l'autre, c'est quand même des thèmes qui sont récurrents. Dans celui-ci, par exemple, on va parler de la vie de Sarah, et pas que d'ailleurs, je vais vous expliquer en deux mots. Mais l'histoire, c'est donc Sarah, qui est une femme qui vit en Bretagne, elle a 44 ans, une situation, deux enfants, un mari très conciliant, agréable, avec qui elle a filé le parfait bonheur depuis plus de 20 ans. Ses enfants, eux, ils sont des grands adolescents. Et puis, dans son histoire, à un moment donné, elle a traversé une période très difficile, très sombre même. Elle s'est battue contre la maladie. Et on la suit de tout ça, sa vie s'est transformée. Notamment, elle a laissé son métier d'architecte pour s'adonner à sa passion pour l'art. Et donc, elle a créé des œuvres d'installations, on va dire, qu'elle a partagées avec le public, notamment en les montrant dans le jardin de sa maison bourgeoise. Eh bien, un jour, Sarah envoie donc un mail à un écrivain et paraît-il que Reinhardt, il a vécu ça. D'ailleurs, vraiment, enfin, en tout cas, moi, j'ai entendu une de ses interviews et j'ai cru comprendre qu'une personne lui a interpellé comme ça par mail pour lui envoyer, pour lui rencontrer, pardon, et lui raconter son histoire parce qu'elle a désiré que cette histoire devienne un livre. Donc, on est un peu dans la même configuration. Hein. C'est Sarah donc, a envoyé ce mail à cet écrivain qu'elle admire, bien sûr, elle connaît son œuvre, qu'elle aime par-dessus tout, et puis elle demande à cet écrivain d'écrire son histoire. Donc, quand on lit ce pavé de plus de 400 pages, on découvre la conversation entre Sarah et l'écrivain, mais aussi l'histoire de Suzanne, qui est le personnage créé par cet écrivain, c'est le personnage dans la fiction, donc, qui va écrire cet écrivain, et cet écrivain est en train de raconter donc, à Sarah l'histoire de Suzanne. Elle va ainsi découvrir petit à petit ce que l'écrivain est en train de créer, le monde qu'elle est en train de créer pour Suzanne et qui ressemble drôlement aussi, hein, bien sûr. Ce livre est un livre complexe, mais qui est tellement bien écrit, tellement bien ficelé. On a envie, on est dedans, on est avec cette psychologie des personnages, cette construction, cette écriture magnifique. C'est un travail remarquable, donc on est dedans et on ne peut pas lâcher. On a envie de savoir plus, d'avancer dans le livre, de connaître ses histoires et connaître également, bien sûr, l'histoire de cet écrivain qui, par moments, se dévoile également. Alors, je ne suis absolument pas surprise que ce livre fait partie de la sélection de Goncourt de cette année. Bravo à Eric Reinhardt. Vous allez pouvoir, bien sûr, lire par vous-même et les trouver dans les meilleures librairies de la ville, bien sûr. Je vous propose, par contre, une lecture pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous raconter à propos de cet enchevêtrement, on va dire, des histoires qui se racontent, puisque là, le morceau que je vais lire, vous allez voir, je vais commencer à parler de Sarah et puis tout d'un coup, je bascule dans Suzanne. J'ai choisi ce passage dans lequel Suzanne qui est le personnage fictif, mais Sarah qui est le vrai personnage, toutes les deux, elles ont donc agi de la même manière, elles ont invité le mari au restaurant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois auparavant, cette invitation, Sarah avait découvert au détour d'une rencontre chez le notaire qu'en fait, son mari détenait 75% de la maison bourgeoise en Bretagne qu'il vivait. Et cela, pour des raisons que vous allez découvrir dans le bouquin, est bien parfaitement inadmissible dans leur contexte, dans leur histoire, bien sûr. Et donc, Sarah demande à son mari, est-ce qu'il rectifie tout cela auprès de notaire? Et pendant des mois, il a promis qu'il allait le faire et il ne fait pas. Donc, Sarah invite son mari au restaurant, parce qu'elle a envie de lui faire un effet un peu d'électrochoc, c'est-à-dire que tout en l'aimant, tout en ayant cette histoire de plus de 20 ans avec lui, elle a décidé de louer une maison, pas terrible d'ailleurs, en dehors un peu de la ville, pour une période de 2 mois à peu près, donc quelques semaines seulement, 2-3 mois, je ne me souviens pas très bien. Et durant cette période, elle va juste quitter la maison, mais avec vraiment le souhait de revenir après, pour qu'il puisse réfléchir, voir comment elle le manque et qu'il puisse aussi s'engager véritablement à changer les choses qu'il a promis, notamment cette histoire financière entre eux. Et donc voilà, donc elle l'invite au restaurant. Bien sûr, le mari n'est pas du tout au courant de ce déménagement un petit peu impromptu hein, qui va vraiment les tomber sous le paletot. Et la scène, bah, je vais vous la raconter maintenant. Sarah s'était dit que le mercredi, c'est le jour idéal pour inviter son mari au restaurant. Ainsi parlerait-elle à ses enfants le lendemain soir et déménagerait-elle le samedi matin en prévoyant le vendredi comme jour de battement. Pendant le dîner, Suzanne s'était sentie nerveuse. On le serrait à moins. À l'inverse, son mari s'était montré d'excellente humeur. Être invité par sa femme dans un restaurant de grand standing l'avait flatté et l'enchanté, en plus de l'intriguer. De fait, il s'était à plusieurs reprises déclaré impatient de découvrir la raison d'être de cette soirée sexy et fastueuse. Entre parenthèses, ce furent ses propres termes. Une lumière étonnante émanait de son visage, une lumière que Suzanne n'avait pas le souvenir de lui avoir vue depuis leur lointaine jeunesse. Il trépignait comme un enfant. Sans doute, supposait-il qu'un éditeur avait accepté de publier son dernier manuscrit et que leur vie en serait changée à jamais. « Plus tard, tout à l'heure, prenons notre temps, chérie », lui avait répondu Suzanne les 3 fois où son mari l'avait pressée de lui révéler ce dont elle voulait lui parler. Suzanne fut à 2 doigts de renoncer à son idée de déménagement et de tout annuler. Était-elle bien certaine que cette initiative n'aurait aucune répercussion pernicieuse? Elle a eu des doutes. Ce n'est qu'après avoir commandé les desserts qu'elle s'est résolue à l'informer de ses intentions. « Ah, enfin, je t'écoute !» lui dit-il. Et voilà, ça va être la bascule dans la vie de cette femme, mais ça va être aussi le point de bascule de la vie de Suzanne, le personnage fictif de cet écrivain. Éric Reinhardt, bravo pour votre livre. Et si je peux vous demander quelque chose, surtout, n'arrêtez pas de nous écrire.
Rows of houses all bearing down on me. I can feel the blue hands touching me. Oh, these things in two positions. Oh, these things are one day swallow whole. This machine. fight for life. I can feel death, can see its beady eyes. All these things into position, all these things are one day swallowed.
La fin de l'émission Le nombril de Vénus sur Canal B.
Et oui, c'est la fin de cette émission. Merci de continuer de nous entendre ici sur Canal B et aussi sur Canal B. .fr où vous pouvez trouver le podcast de cette émission. C'était Le Nombril de Vénus et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures livresques. Allez, bisous, bye.